avoir mis un peu le feu, au bazar, tout ça. Et j'en suis contente, mais je pense que l'artiste est subversif.
My success means a great deal to me, and my stage presence and being on stage means a great deal to me.
Vous écoutez.
My music is first in my life.
Les Ardentes. Cela faisait quelque temps que je réfléchissais à développer une émission autour des femmes musiciennes, notamment de jazz, celles qui ont enflammé et continuent d'enflammer la scène. Une émission pour raconter leur parcours, leur combat aussi, et redonner de la place à des histoires trop souvent reléguées en marge des récits officiels. De cette idée est née Les Ardentes, une émission consacrée aux femmes qui ont façonné et continuent de façonner le jazz, avec audace, rigueur et liberté. Quand j'ai ensuite commencé à travailler sur un premier épisode, il m'est apparu clair comme de l'eau de roche qu'il serait pertinent de mettre en lumière des musiciennes qui, à leur manière, aient posé un jalon dans l'histoire de ces musiques. Dans cet épisode inaugural, nous parlerons donc de grandes pionnières du piano jazz, des musiciennes, compositrices, chefs d'orchestre et femmes ardentes. Il y a Lil Ardine, compositrice, arrangeuse, chef d'orchestre et stratège redoutable, celle qui a littéralement contribué à construire la carrière de Louis Armstrong. Il y a Lovie Austin, pilier du blues classique, directrice musicale, grande architecte du son à Chicago dans les années 1920. Et puis, il y a Marilou Williams, génie précoce, pianiste visionnaire, à la fois passeuse, témoin et actrice des grandes mutations du jazz au XXe siècle. Trois parcours distincts. Trois histoires de musiciennes longtemps restées dans l'ombre de leurs homologues masculins. Et un point commun. Elles ont ouvert la voie, parfois seules, parfois contre tout. Alors ce soir, dans ce premier épisode des Ardentes, nous allons rallumer leur flamme et nous réchauffer ensemble. Chères auditrices, installez-vous confortablement. Les Ardentes, c'est un samedi toutes les 8 semaines, de 21h à 22h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je vous souhaite une très bonne écoute. Petite fille d'esclave, Liliane Ardine naît à Memphis le 3 février 1898 et grandit avec sa mère et sa grand-mère à proximité de Beale Street, qui voit alors émerger et s'inventer le blues et le jazz. La petite Lil commence très jeune la musique avec l'orgue et est vite introduite aux spirituals, aux hymnes religieux, à la musique populaire et au piano classique dans lequel elle excelle. En 1918, âgée de 19 ans, elle déménage à Chicago et obtient, grâce à sa capacité à lire la musique, un emploi au Jones Music Store comme song plugger. Elle joue à la clientèle les nouveautés pour que les intéressés puissent faire un choix avant d'acheter le disque. Cette visibilité lui permet d'être engagée par un chef d'orchestre local nommé Lawrence Duhay, chose qui, malgré son apparence anodine aujourd'hui, était complètement inédite à l'époque pour une femme. Elle joue alors dans son orchestre Dreamland Café, l'un des hauts lieux de la vie nocturne à Chicago de l'époque, un club où se croisent danseurs, musiciens et tout ce que la ville compte de talents émergents. Très vite, elle y dirige même sa propre formation en 1920, fait rarissime pour une femme et encore plus pour une femme noire. Un an plus tard, le Creole Jazz Band de Joe King Oliver prend ses quartiers au Dreamland et le cornettiste l'engage alors comme pianiste, remplaçant ainsi une autre pianiste américaine, autre grande oubliée de l'histoire du jazz. Bertha Gunsulin, l'une des toutes premières femmes pianistes de jazz enregistrées et précurseuse du stride, technique pianistique permettant au ou à la pianiste de jouer à la fois les basses et les accords de la main gauche, tout en improvisant mélodiquement de l'autre main. Au sein du Creole Jazz Band, acclamée par le public local, Ardine assoit sa réputation et s'assure une place de choix auprès des plus grands instrumentistes de Chicago. Elle excelle dans son jeu pianistique, en misant sur son talent pour le rythme, ce qui donnait un élan fort au jeu collectif, et se mariait à merveille avec le caractère « hot » du jazz des années 20. D'où son surnom « Hot Miss Lil ». C'est ainsi qu'à l'été 1923, Lil Ardine compose et enregistre avec le groupe « Working Man Blues ». Thank you. C'est au sein du Creole Jazz Band que Lil Hardin rencontre celui qui deviendra son mari et pour qui elle composera, arrangera, enregistrera. Louis Armstrong, engagé un an après elle dans le groupe comme second cornettiste. Elle voit immédiatement, avant tout le monde, ce que Louis Armstrong peut devenir. Et elle comprend aussi que rester dans l'ombre de King Oliver ne l'aidera jamais à éclore. Alors, elle le pousse à quitter Joe King Oliver pour rejoindre l'orchestre de Fletcher Henderson à New York, dans lequel elle lui a décroché une place. Un choix décisif, presque historique, dans la trajectoire d'Armstrong, dont elle a été la chef d'orchestre. Grâce à elle, on parle de lui partout. En 1924, Lil Jan Hardin et Louis Armstrong se marient, avant de se séparer 7 ans plus tard. Dans les studios, Lil devient la pianiste des Hot Five et des Hot Seven, formation mythique d'Armstrong. Mieux encore, elle organise tout. Les répétitions, les rendez-vous. Elle compose même plusieurs morceaux devenus historiques, comme Hotter Than That, Knee Drops et Strutting With Some Barbecue. Dans ces mêmes années, Lil Hardin compose, dirige, arrange, enregistre sous son nom, mène ses propres groupes. Et vers 1927, elle reprend les études et décroche 2 diplômes de musique, enchaîne les concerts, les collaborations, les enregistrements et dirige des orchestres masculins. Une configuration audacieuse à une époque où, lorsqu'un orchestre de musiciens faisait appel à une femme, celle-ci était nécessairement cantonnée au rôle de pianiste ou de chanteuse. En 1936, alors pianiste chez Decca, elle compose et enregistre 26 morceaux en quelques sessions seulement. Parmi eux, le tube Just for a Thrill, qui deviendra célèbre lorsque Ray Charles le reprendra plus tard. On écoute.
Just for a thrill, you turn the sunshine into rain. Baby, for a thrill, you gave my heart nothing but pain. To me, you were a pride and a joy, but to you, I was only a toy, a plaything, just to toss around at will. Just for a thrill, you know that you did me wrong. Just for a thrill, you made my life just one sad song. But now you're free and you're having your fun. But to me, you're still the only one. Just for a thrill, you made my heart stand still.
En 1952, elle part en tournée en Europe et multiplie ensuite les apparitions, notamment dans l'émission Chicago and All That Jazz. Elle enregistre à Paris, à Chicago, et devient pendant plusieurs années la pianiste attitrée du Red Arrow Jazz Club. La voici de nouveau accompagnatrice, puis soliste. Mais pour des raisons un peu obscures, ou peut-être pas tant que ça compte tenu du contexte de l'époque, elle se tourne successivement vers la création de vêtements, puis l'enseignement, tout en continuant à créer et enregistrer de manière occasionnelle. Elle ne revient que tardivement sur le devant de la scène. Le 27 août 71, lors d'un concert hommage à Louis Armstrong décédé 2 mois plus tôt, elle s'effondre sur scène en jouant Saint Louis Blues. Pianiste, chef d'orchestre, compositrice et arrangeuse exceptionnelle, elle fut l'une des premières femmes instrumentistes reconnues professionnellement. Malheureusement, son talent est resté dans l'ombre de Louis Armstrong alors même qu'elle a contribué activement à faire de lui une légende. Les Ardentes, une heure pour les femmes qui enflamment la scène jazz. Un samedi tous les 2 mois, de 21h à 22h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Thank you.
to see that evening sun go down. Yes, I hate to see that evening sun go down, 'cause it makes me feel like I'm on my last go round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Say, St. Louis woman, where's her diamond ring? She pulls her man around by her apron string. If it wasn't for the powder and the stove bought hat, say, that man I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. Say, I love my man like a schoolboy love his pie. Like Louis Armstrong blows so nice and high. Gonna love that man until the day I die.
I've been to the gypsy to get my fortune told. Yes, been to the gypsy to get my fortune told. Because the gypsy knows crazy about my jelly roll. Yeah, yeah. And when I went to the gypsy, she had fortunes all over the place. I'm telling you, yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. Baby!
Looking?
Yeah.
Baby, I ain't built so fine.
Who said that?
Say, I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine.
I'm worried about what's on your mind.
But all the boys like me, 'cause I take my time.
That's the trouble now. I'm gonna grab me a picket off somebody's fence.
Wait a minute now, wait, don't go berserk now, wait a minute.
What would that? A little picket off somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until you learn some sense. Take it, tell it, take it.
Ha ha!
On va maintenant explorer la vie d'une autre grande dame du jazz et du blues, pianiste, compositrice, arrangeuse et directrice musicale contemporaine de Lil Hardin, Lovie Austin. Lovie Austin, de son nom de naissance Cora Calhoun, naît en 1887 à Chattanooga dans le Tennessee, au cœur d'un sud marqué par la ségrégation et l'héritage de l'esclavage. Elle grandit dans une Amérique où les personnes noires n'ont que très peu de droits et où une culture musicale vibrante, blues, gospel, ragtime, circule déjà dans les rues, les églises, les théâtres. Élevée par sa grand-mère, qui la surnomme Lovie, d'un père musicien et enseignant à New York, elle baigne très tôt dans un environnement où la musique est présente partout. Chattanooga, au tournant du XXe siècle, est une ville où le blues commence à prendre forme. Les musiciens itinérants passent, les spectacles ambulants s'installent sur les places, les voix s'élèvent dans les bars et les vaudevilles. Et Lovie observe, écoute, absorbe. Elle partage aussi son quotidien avec une autre enfant du quartier. Une certaine Bessie Smith, à qui on accordera plus tard le surnom d'Empress of the Blues. Les deux fillettes sont inséparables. Et parfois, le soir venu, elles se faufilent en douce pour aller voir leur idole, Ma Rainey, la Mother of the Blues. Dans l'ombre des théâtres, Lovie voit cette femme puissante, maquillée, drapée de plumes et de sequins, dominer la scène et électriser le public. Une image qui marque profondément la future pianiste.
Make me feel all. for his head at night. Then I bought him a mattress so he could lay just right. He came home one evening with his spirit way up high. He came home one evening with his spirit way up high. What he had to give me made me wring my hands and cry. That I never had before. He gave me a lesson that I never had before. When he got through teaching me from my elbow down, what he made it awful hard. He bought my first cabbage and he made it awful hard. Then he put in the bacon, it overflowed the pot. When you get good loving, never go and spread the news. Gals will double cross you and leave you with them empty bed blues.
Vous écoutez Les Ardentes. Un samedi tous les deux mois, de 21h à 22h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Son talent précoce la pousse vers les études. Lovie suit, comme sa contemporaine Lil Ardine, une éducation musicale classique. Avec son talent et sa formation solide, Lovie Austin a tout pour devenir professeur de musique. C'était même, à l'époque, le chemin le plus logique pour une femme noire formée au classique. Mais la jeune pianiste ne veut pas enseigner. Elle veut jouer. Elle veut être sur scène. Et au début du XXe siècle, il n'y a qu'un seul endroit où c'est possible. Le vaudeville, un genre de divertissement composé d'une série de spectacles populaires mêlant musique, comédie, danse, numéros visuels et tours en tout genre. C'est le seul circuit qui engage des musiciennes et des musiciens noirs, le seul espace où l'on peut gagner sa vie en jouant, même si les conditions y sont souvent éprouvantes. C'est le circuit TOBA, Theatre Owners Booking Association, un réseau de salles où les artistes noirs avaient, péniblement, le droit de se produire. On appelait d'ailleurs autrement ce circuit « Though on Black Artists », dur avec les artistes noirs. Et effectivement, les conditions étaient alarmantes. Cachet dérisoire, trajet interminable, conditions de travail épuisantes. Mais Lovie tient bon. Elle dirige de petits orchestres, accompagne des chanteurs, des danseuses, des humoristes. Et surtout, elle forge son style. Un piano martelant, énergique. Une main gauche qui propulse, une main droite qui colore. Un jeu profondément blues, en somme. C'est sur ces routes, dans ces théâtres défraîchis du Sud et du Midwest, que Lovie Austin devient Lovie Austin. Une musicienne incontournable, respectée, déjà pionnière. Et ce, avant même d'arriver à Chicago. La pianiste Marilou Williams, dont on parle juste après, enfant à l'époque, raconte qu'à 8 ans, assise dans le théâtre Toba de Pittsburgh, elle voit Lovie pour la première fois dans la fosse. Cette grande femme, cigarette au coin des lèvres, les jambes croisées, conduisait un orchestre de 5 ou 6 hommes, jouant de la main gauche et écrivant la musique de la main droite. Waouh, je n'ai jamais oublié ça. En 1923, Lovie s'installe à Chicago, alors capitale du jazz et du blues. Elle devient, comme Lil Hardin, une pianiste respectée, recherchée. Elle crée son propre groupe, The Blues Serenaders, et fait appel à certains des meilleurs musiciens de jazz hot de la ville. De plus, elle est, durant 25 ans, chef d'orchestre et directrice musicale du Monogram Theatre, un théâtre modeste mais crucial, véritable laboratoire musical où passent les plus grands. À Chicago, elle compose, arrange, dirige, et son influence se diffuse partout dans la ville. Elle devient l'une des signatures de Paramount Records, pour qui elle joue les rôles invisibles mais déterminants, à savoir découvrir les talents du blues, arranger leurs morceaux, tenir la barre au piano lors des sessions d'enregistrement et transcrire les compositions de musiciens incapables d'écrire leur musique. C'est à cette même période que Lovie Austin compose certains des plus grands classiques enregistrés par la chanteuse Bessie Smith, dont Downhearted Blues. Ce titre est un triomphe. 780 000 exemplaires vendus en 6 mois. Une fortune pour le label. Malheureusement, pas vraiment pour elle. Lovie aide d'autres musiciennes, comme la chanteuse Alberta Hunter, à obtenir des droits d'auteur, mais elle-même peine à sécuriser les siens. Une réalité malheureusement fréquente chez les musiciennes noires à l'époque. Sa carrière ralentit quand le swing supplante le blues, puis la Grande Dépression frappe de plein fouet. Bessie Smith elle-même est abandonnée par Columbia en 1931. Lovie continue, fidèle, tenace, dirige ses ensembles, joue dans des clubs, puis travaille même comme inspectrice dans une usine d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, elle accompagne des cours de danse, loin des projecteurs, loin de l'histoire qui oublie peu à peu son nom. En 1961, elle retrouve tout de même son amie Alberta Hunter pour un dernier album. Un moment précieux, car ses premiers enregistrements sont rares et parfois très dégradés. On écoute Money in Low.
Money in Low. My sweet man, I love him so. Oh, he's as mean as can be. He's the kind of a man needs a kind of woman like me. I'm gonna die if my sweet man should pass me by. And if I die, where will he be? He's a kind of a man, needs a kind of woman like me. Oh, but he does. Lord, I don't know any reason why he treats me so poorly. What have I gone? Tell me, what have I done? He makes my troubles double with his worries, when surely you know I ain't deserving of none. Moaning low, our man is gonna go. If he goes, Lord, it's you. He's a kind of a man, Lord, he needs a kind of woman like me. My man, I love him so, though he's as mean as can be. Lord, he's the kind of a man, you know he needs a kind of woman like me. I'm gonna die, my man should pass me by. If I die, where will he be? He's a kind of a man, Lord, he needs a kind of woman like me. Lord, I don't know any reason why he treats me so poorly. Tell me, what have I gone? Lord, what have I done? He makes my troubles double with his worries, when surely you know I ain't deserving of none. I'm mourning, Lord, my man is gonna go. And if he goes, Lordy dee, a man, you know it has to have a woman like me.
Lovie Austin s'éteint en 1972, âgée de 84 ans. Une musicienne essentielle, trop souvent oubliée de l'histoire de cette musique. Mais celles et ceux qui l'ont croisée, elles, eux, n'ont jamais oublié son génie. Enter dirait d'elle: c'était une femme merveilleuse qui a essayé d'aider tous ceux qu'elle pouvait. Et dans ces mêmes théâtres, dans ces mêmes fosses d'orchestre, une enfant observe, les yeux écarquillés. Cette enfant, c'est Marie-Lou Williams, qui dira plus tard que Lovie Austin fut l'une de ses premières grandes révélations musicales. Mary Lou Williams naît à Atlanta en 1910, avant de déménager avec sa mère à Pittsburgh. Cette dernière, elle-même pianiste, se rend très vite compte du talent immense de sa fille quand, posée sur ses genoux, elle improvise à l'orgue de l'église baptiste que la famille fréquente. À 3 ans, dotée d'une oreille absolue et d'une excellente mémoire, elle joue et improvise au piano avec une maturité déconcertante. À 6 ans, ce talent lui vaut d'être payée pour se produire en public lors de fêtes, devenant ainsi musicienne professionnelle. Adolescente, elle part en tournée accompagnée des orchestres swing, dans lesquels elle joue avec Louis Armstrong, Fats Waller ou encore Duke Ellington, pour lequel elle composera d'ailleurs plusieurs de ses titres devenus célèbres. Et s'impose rapidement comme une instrumentiste et improvisatrice hors pair, dans un milieu pourtant hostile aux femmes et une Amérique profondément divisée par la question raciale. Âgée de 17 ans, The Lady Who Swings the Band, comme on la surnomme alors en raison de sa main gauche bondissante, emblématique du stride, rejoint The 12 Clouds of Joy, l'un des orchestres les plus importants des années 30. Mais jouer dans ces orchestres ne lui suffit plus. La jeune pianiste se met à la composition, apprend la notation, et oui, car tout ça jusqu'ici c'était juste grâce à son oreille et à sa mémoire, et enregistre en 1930 son premier morceau qui s'inspire de son expérience difficile de femme dans le monde des clubs de jazz. C'est Nightlife. Les Ardentes, c'est toutes les 8 semaines, un samedi à 21h sur Radio Campus Paris. 93.9 FM. Années 40, New York, son appartement est un véritable centre d'apprentissage. Dizzy Gillespie, Thelonious Monk ou encore Bud Powell viennent y prendre des leçons, y répéter, y chercher des idées. Se joue alors la révolution bop, dont Williams incarne la pédagogie secrète, le trait d'union entre le swing et la modernité. En 1945, elle compose une grande œuvre visionnaire, The Zodiac Suite, dont chacune des 12 parties correspond à un signe astrologique et qui mêle jazz et musique classique, anticipant ainsi la naissance du Third Stream, ou troisième courant en français, terme qui n'apparaîtra qu'en 1957. Là encore, Williams a un coup d'avance sur son temps. On écoute le mouvement Scorpion. À la même période, Williams enregistre 6 solos de piano, dont Cloudy et Lonely Moments, deux moments d'exploration tout en douceur qui viennent, telle une nouvelle prémonition, anticiper le mouvement modal des années 50, notamment incarné par Thelonious Monk. Au milieu des années 50, Marilou Williams, alors en Europe, traverse une véritable crise. En difficulté financière, ayant perdu un ami cher, elle doute et se retire de la scène. À Paris, en découvrant la Bible, elle se convertit au catholicisme, un tournant qui va profondément transformer sa musique. En 1957, encouragée par Dizzy Gillespie, Marilou remonte sur scène, mais elle n'est plus la même. Désormais, elle veut mettre son art au service de sa foi. En plus de son engagement dans le mouvement des droits civiques, elle accueille chez elle des musiciens malades ou addicts et se tourne vers la musique sacrée. De là, naît son œuvre maîtresse, Black Christ of the Andes, album mêlant harmonie vocale et expérimentation modale en trio, dédié à Saint Martin de Porres, premier saint noir des Amériques, canonisé en 1962. Je vous laisse savourer ce bijou.
De Porres, the shepherd's staff of dusty broom. Shrine of his tomb.
Le Concile Vatican II ouvre la liturgie aux langues populaires et aux nouvelles formes musicales. Et Marie-Lou saisit cette liberté nouvelle. En 1975, elle compose et célèbre une messe jazz à la cathédrale Saint-Patrick de New York. Un geste unique, profondément pionnier, à son image. Jusqu'à la fin de sa vie, elle poursuit une carrière d'enseignante qui l'amènera à la prestigieuse université de Duke. Le parcours exceptionnel de Marie-Lou Williams fait d'elle une pionnière dans le jazz, en tant qu'instrumentiste féminine, que talent pur, mais aussi en tant qu'artiste qui aura su, en 60 ans de carrière, radicalement se réinventer. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que ces histoires et ces musiques vous ont plu. L'émission est disponible en podcast sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve le 28 mars à 21h pour un nouvel épisode. À très vite dans les ardentes.